Comme prévu, les processus de rejet de la politique occidentale se renforcent dans les pays du continent africain, y compris dans les États sur lesquels l'établissement occidental continue de miser. L'Élysée et le Quai d'Orsay se rendent à l'évidence que la dynamique engagée à de nombreux endroits de l'Afrique, qu'ils avaient espéré ralentir, ne fait au contraire que monter en intensité. La récente mobilisation au Tchad ne fait que le confirmer avec des appels de la population ouvertement hostile contre Paris et ses intérêts. En effet, toutes les campagnes que le système néocolonial france-africain a tenté de mener, et continue d'ailleurs, en cherchant à déstabiliser les États qui inspirent aujourd'hui nombre d'autres, notamment la Centrafrique et le Mali, ne semble pas apporter les résultats escomptés. Les tentatives de séduire une partie de la jeunesse africaine ou les informations récentes faisant part d'actions visant à soudoyer les blogueurs africains ne font au contraire qu'exacerber la volonté de résistance à ces pratiques néocoloniales occidentales de la part d'une large partie de la société civile panafricaine. Mais ce n'est pas tout, on peut remarquer aujourd'hui de plus en plus de tentatives visant à essayer de surfer sur la vague panafricaniste, y compris sur les sentiments hostiles à la France-Afrique de la part du principal allié de Paris, à savoir Washington. Ainsi, certains influenceurs africains sont mis à contribution pour tenter à se joindre au discours souverainiste dans un cadre panafricain, en reprenant une partie des discours hostiles du régime de Paris, mais par la même occasion en essayant de dénigrer le partenariat avec la Russie ou la Chine, tout en promouvant les intérêts états-uniens. Fait marquant et au-delà de l'aspect propre aux anglo-saxons qui n'hésitent pas à poignarder dans le dos leurs propres prétendus alliés, le fait est que cette stratégie n'apporte pas, elle aussi à l'instar de celle de Paris, de résultats rassurants pour ses instigateurs. Washington a beau vouloir se distancer dans ce schéma des échecs hexagonaux, peu de gens en Afrique lui font confiance. Tout cela confirme que le rejet actuel du système de la France-Afrique dépasse largement le cadre des sentiments hostiles au régime de Paris, mais s'étend beaucoup plus largement à tout l'Occident, du moins plus particulièrement à l'établissement occidental, aussi bien politique que médiatique. Et cela, malgré encore de grands moyens à sa disposition, allant de médias propagandistes, francophones comme anglophones, jusqu'au financement via les réseaux à la sauce Soros et compagnie. Pour revenir au Tchad, le défi particulier donc pour Paris et plus généralement l'établissement atlantiste est que ce pays fait justement partie des États africains sur lesquels le régime hexagonal comptait le plus, avec également la Côte d'Ivoire et même un peu le Niger, pour tenter à minimiser les pertes suite au revers subi en RCA et au Mali. Il faut également se rendre à l'évidence qu'en ce qui concerne le cas tchadien, l'élite occidentale fera de son maximum pour empêcher la réalisation des aspirations de la société civile du pays, y compris avec des moyens de répression largement disponibles de par une présence militaire hexagonale sur place. Cependant, le processus de résistance panafricaniste et pro-multipolaire est déjà largement enclenché. En se basant sur cela, il sera extrêmement difficile désormais pour les forces néocoloniales occidentales et leurs supplétifs locaux de pouvoir faire taire la voix de millions d'Africains qui souhaitent prendre complètement leur destin en main. Et par la même occasion, rappeler une fois de plus que ce qui a permis la prospérité pendant longtemps de l'espace occidental, ce sont les ressources du monde non occidental et non pas le prétendu contraire. Oui, la chute sera très dure pour l'Occident, son extrême arrogance ainsi que l'incapacité la plus totale à s'adapter aux règles récentes issues de la multipolarité, sans oublier les innombrables crimes et pillages commis, en sont parmi les principales raisons. Aujourd'hui, il faudra assumer. Au Mali, le gouvernement malien a décidé de couper l'herbe sous le pied de la MINUSMA. Cet organe ne peut plus circuler comme en terrain conquis dans les zones où se trouvent encore les terroristes. Dans le cadre de ses activités illicites, la MINUSMA effectue régulièrement des patrouilles dans plusieurs localités du centre et du nord du Mali. Cependant, la MINUSMA n'est plus libre d'aller où elle veut dans le cadre de ses patrouilles. En effet, la police des nations, qui s'apprêtait à patrouiller dans le secteur de Djenné, a été interdite d'accès à la zone ce lundi 16 mai. Donc, selon une source onusienne qui a confirmé l'information, les raisons évoquées pour justifier cette interdiction sont liées aux opérations militaires qui sont en cours dans la zone, comme l'a souligné le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Les FAMA mènent régulièrement des actions dans ce secteur où les terroristes, notamment ceux liés à Al-Qaïda, sont particulièrement présents. Le crépissage de la mosquée de Djenné, donc prévu le week-end dernier, avait d'ailleurs été repoussé pour des raisons de sécurité. Mais la MINUSMA prétend de son côté que les FAMA veulent opérer en toute discrétion et c'est pour cela que le gouvernement du Mali ne veut pas qu'elle soit présente dans la zone. Mais la réalité est bien sûr tout autre. En effet, il existe beaucoup de raisons pour empêcher les soldats de l'ONU d'opérer librement dans un pays d'Afrique et beaucoup d'États africains l'ont bien compris. En Centrafrique, par exemple, les véhicules de la MINUSMA sont régulièrement contrôlés par les forces armées centrafricaines et les soldats russes. Et la raison est simple, l'État centrafricain sait que la MINUSCA fournit des armes aux rebelles qui ne veulent que la chute de la Centrafrique. De plus, l'ONU sert également de couverture aux soldats occidentaux. Dernièrement, 4 soldats français sous la bannière de l'ONU ont été arrêtés en février 2022 alors qu'ils préparaient l'assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. En RDC, surtout dans l'Est, la population congolaise s'est souvent plainte de l'inaction de la MONUSCO. Les soldats de l'ONU ont toujours, en effet, laissé faire les rebelles lorsqu'ils attaquaient des villages entiers et massacraient des civils. Ce qui fait que le gouvernement malien a toutes les bonnes raisons pour limiter les missions de l'ONU sur son territoire. Mais une nouvelle est également apparue ce 19 mai. En ce jour, donc à 12h30, sur la route de l'aéroport à 100 mètres du poste de contrôle de la police, un véhicule de la MINUSMA a été pris pour cible par 4 hommes armés. Ils étaient à bord du Toyota Bashe. Après leur forfait, ils se sont retirés vers l'est avant l'arrivée des gendarmes stationnés au poste de police. Bilan, pas de morts ni de blessés, secourus par les FAMA. Était-ce le signe que la MINUSMA donc n'est pas du tout la bienvenue au Mali ou était-ce plutôt un false flag pour encore pouvoir justifier la prolongation prochaine de la MINUSMA au Mali ? Bref, il est clair qu'avec les nombreuses avancées des FAMA dans la lutte contre le terrorisme, le Mali continue de montrer qu'il n'est plus nécessaire pour les militaires occidentaux d'être présents dans le pays sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme et la pseudo-protection des civils. Pas plus tard que ce mercredi, les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé 86 terroristes dans les régions de Ségou, Mopti, Douenza au centre, ainsi que Nara et Koulikoro au sud du pays. L'information a été annoncée par l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué indiquant que 4 soldats avaient également trouvé la mort. L'exploitation des renseignements sûrs dans différentes zones de la région de Ségou, y compris des forêts, a fait 20 terroristes neutralisés, y compris des combattants, des poseurs d'engins explosifs improvisés et des guetteurs, 5 suspects interpellés, 10 engins donc explosifs improvisés détruits. La base de Dola et un laboratoire de EI dans la forêt de Diandian ont été détruits, comme l'indique le colonel Mariam Sagara, directrice adjointe de l'information et des relations publiques des armées. Dans le cercle de Djenné, les FAMA, dans la recherche des terroristes responsables des récentes exactions contre les populations, ont consolidé leur réorganisation dans la zone suite à la réaction contre la double attaque complexe d'engins explosifs improvisés, donc avec un bilan de 4 morts au combat, 10 blessés et d'importants dégâts matériels, ajoute-t-elle. La même source explique que les multiples accrochages à l'est de Djenné ont fait 4 donjons neutralisés à Niala, ainsi que 15 terroristes neutralisés également. Dans la région de Douenza, sur la base de renseignement, des frappes aériennes ont ciblé 2 camps d'entraînement du terroriste Abu Mahama, suivi de ratissage des forces terroristes dans la forêt de Foulserré dans le secteur de Douna. 29 terroristes ont été neutralisés, dont 17 combattants et 12 jeunes recrues, y compris des enfants soldats en formation, 30 terroristes blessés, dont certains très graves, acheminés en soins dans 2 localités, donc sur la ligne frontière, poursuit l'état-major. Sagara note que la poursuite des reconnaissances offensives à Douna, 10 terroristes ont été neutralisés à la sortie du village. En outre, 12 terroristes ont été neutralisés dans les régions de Nara et Koulikoro, affirme-t-elle. Encore une fois, le Mali montre qu'il peut vaincre le terrorisme, notamment avec ses alliés régionaux ou encore des partenariats sérieux avec des pays extracontinentaux qui n'ont pas une attitude de colon envers l'Afrique. En Nouvelle-Calédonie, l'annonce était attendue alors que le dépôt des candidatures aux législatives s'achève vendredi et que la mouvance indépendantiste et anti-impérialiste en Nouvelle-Calédonie cherchait à concrétiser une démarche unitaire. Wally Waetra et Gérard Régnier, donc issus du Palika et de l'UC, entament la course à la députation dans la première et la seconde circonscription. Deux figures de l'USTKE donc sont leurs suppléants. Un double attelage placé sous le signe de l'unité donc et de l'avenir institutionnel à aller chercher pour la Nouvelle-Calédonie. Wasisi Konyi l'a clairement redit au nom de la FLNKS donc durant la conférence de presse tenue ce mardi après-midi à donc Doumbéa, Rivière. Il faut que la mouvance indépendantiste soit représentée à l'Assemblée nationale pour faire entendre sa voix et demander à l'État des discussions bilatérales. De son côté, Wally Waetra n'a pas manqué de rappeler les positions de la mouvance indépendantiste, citant l'accession de la Nouvelle-Calédonie à sa souveraineté pleine et entière par le transfert des dernières compétences, le maintien de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser, le maintien ferme et non négociable des acquis dont le gel du corps électoral, puis le refus catégorique d'un nouveau statut au sein de la République. La candidate indique par ailleurs que sa mouvance conteste vigoureusement la dernière consultation. Nous estimons qu'on ne peut pas avoir de légitimité politique si le peuple colonisé n'y a pas participé. Explication de Gaston Yarrick, gardien de sécurité de la société Manutrans et la SAT depuis la Nouvelle-Calédonie.
Alors, bonsoir Amir, je vais essayer en bref, pour donner le compte-rendu du deuxième congrès populaire. Alors, cette congrès populaire s'était déroulé le 8 mai 2022 à la tribu de ND Païta. Alors, c'est la suite du premier congrès populaire qui s'était passé l'année dernière, le 22 août 2021 à la salle omnisports de Lanzwata. Alors, ce qui est sorti sur le premier congrès populaire, c'est, je vais vous la relire quand même de cette motion finale. Alors, réaffirmons l'objectif commun de la pleine souveraineté de notre pays. Appelons les forces vives, nos coutumes, les églises, la jeunesse, les femmes, les artistes, à la mobilisation nationale pour un oui massif lors de l'ultime consultation référendaire prévue par l'accord de Nouméa. Nous engageons ensemble dans la campagne nationale pour l'avènement d'une nation fraternelle, libre, démocratique et solidaire. Décidons d'instituer une direction nationale commune pour porter cette stratégie unitaire. Engageons nos responsables à la poursuite, poursuivre les travaux autour du projet de société, de l'actualisation du projet de constitution et sa viabilité économique et financière. Décidons de renforcer le travail autour de l'abstentionnisme et des procurations et des bureaux de vote délocalisés. Alors ça, c'était une motion qui était sortie l'année dernière du premier congrès populaire, mais c'est quand même vous avez suivi la suite après, parce que c'est quand même on est arrivé au 12 décembre et on voyait, parce que c'était le Covid était arrivé ici en Nouvelle-Calédonie, et puis nous avons perdu pas mal des gens de nos familles, hein, de nos camarades aussi qui ont parti dans cette Covid. Et nous avons l'FLNKS a demandé un report de ce troisième référendum. Et vous connaissez la suite quand même. L'État a maintenu avec son gouvernement. Nous recevons ça, mon dénoncé quand même cet référendum bidon. Moi, quand même, j'ai dénoncé quand même sur votre antenne quand même que cet référendum, ce n'est pas un vrai référendum. Alors, malgré tout ça, ben, on est arrivé quand même à continuer, malgré tout, à continuer de faire le travail pour continuer notre lutte, parce que c'est le combat de notre pays vers sa souveraineté. Et dans cette première congrès populaire, nous avons cette année 2021, nous avons salué quand même nos responsables qui ont pris les deux institutions qui sont très importantes ici en Nouvelle-Calédonie, c'est le Congrès et le gouvernement. Alors aujourd'hui, c'est les Kanaks qui gèrent aux commandes du pays. Voilà, c'est les fruits de toujours de notre consultation, de notre. On est toujours. Travaille toujours à l'unité. On veut toujours cette unité pour prendre toutes ces responsabilités-là. Et aussi, si je vous le rappelais, dans cette première congrès populaire, c'est quand même qui a été un peu l'ouverture, quand même. On a fait l'ouverture. On a essayé quand même de faire ouvrir un peu notre combat vers les victimes de l'histoire. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui comprennent ça, mais bon, voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Et aujourd'hui, c'est la suite quand même de tout ce travail-là qu'on continue quand même avec ce deuxième congrès populaire. Alors, dans le deuxième congrès populaire qui était sorti quand même, c'est toujours affirmer l'objectif, c'est la pleine souveraineté de notre pays. Premier qui était sorti dans notre congrès, dans notre deuxième congrès populaire. Et la deuxième, c'est une rencontre bilatérale avec l'État, avec le nouveau gouvernement qui va s'être installé dans cette dans deux dans deux dans 2 ou 3 mois pour discuter avec ce gouvernement, c'est-à-dire bilatéral entre l'État et le peuple canadien. Ce qui est sorti aussi au troisième point, c'est quand même, ils ont parlé un peu de cette référendum. C'était un référendum qui n'a jamais eu lieu, ce troisième référendum. Ce qui est sorti, c'est quand même, dans notre congrès populaire, c'est quand même, on veut, si on arrive quand même à faire ce troisième référendum, on veut que cette référendum, ça doit être organisé par les Nations Unies. Nations Unies. On veut la présence des Nations Unies et on veut l'organiser. On veut que c'est le Nations Unies, c'est l'ONU qui organise cette troisième référendum. Ça, c'était sorti du deuxième congrès populaire. Après, nous avons parlé, quatrièmement, de législatif. Législatif, c'est pour mettre le candidat des indépendantistes et nationalistes et les progressistes de se présenter sur le premier circonscription et le deuxième. Premier, deuxième. Alors, aujourd'hui, nous avons 4 candidats qui. Nous avons 4 candidats qui ont été quand même, qui ont été arrivés à choisir par les indépendantistes et les nationalistes progressistes. Ils ont choisi 4 candidats qui aujourd'hui qui va nous représenter sur le premier circonscription et le deuxième. Et voilà ce qui est sorti quand même de notre Congrès populaire. Mais voilà, moi je dirais simplement en conclusion de tout ça, du premier Congrès populaire et du deuxième congrès, premier et deuxième congrès populaire, j'ai senti un renforcement des militants, renforcement des gens. Les gens sont très contents parce que ils ont vu quand même que on arrivait quand même à s'unir pour parler d'une seule voix. Et je crois que c'est ça l'essentiel. On doit garder ça parce que c'est ça. On doit montrer aussi aux gens qui sont là devant nous, l'État colonial, mais la droite locale, qu'aujourd'hui, le peuple kanak, ben, il est là. Il est là. Et il va vous emmerdera jusqu'au bout. Parce que nous, il y a des gens, l'histoire de ce pays, il y a des gens. Hein, il y a des gens qui sont partis à un moment donné. Hein. Ils ont laissé eux des veuves, des enfants. Parce que ces gens-là, ils se battaient à un moment donné pour la libération du Kanaky. Et je voulais dire ce soir, Amir, je voulais dire ce soir à toutes les nations qui écoutent quand même votre chaîne que nous irons jusqu'au bout. C'est notre droit aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui aujourd'hui qui veulent déstabiliser le monde. Parce que c'est des gens qui sont, voilà. Et nous voulons faire partir de ces nations-là. De ces nations-là. On voulait, même si c'est une petite nation, mais on veut aujourd'hui faire partie de ces nations-là. Alors, je voulais dire quand même merci, Amir, merci de ça. Je resterai toujours en contact avec vous, mais la lutte doit continuer. Nous disons que nous, on est là attentif à tout ce qui se passe. Il faut être prudent parce qu'aujourd'hui, je dis, nous, le peuple kanak, il faut être prudent et à l'écoute de notre mouvement qui était aujourd'hui, qui était fort, un mouvement indépendantiste qui se retrouve 30 ans après avec ces mouvances forts aujourd'hui de toute force confondues et qui vit aujourd'hui accède à son indépendance. Voilà, merci.
João Lourenço exhorte l'Afrique à ne pas quitter activement les combustibles fossiles. La pression s'est accrue sur les pays africains pour qu'ils passent à des sources d'énergie plus propres depuis le sommet sur le climat COP26 qui s'est tenu à Glasgow en novembre 2021. Le président angolais João Lourenço a exhorté lors d'une réunion de l'Organisation des producteurs de pétrole africain à Luanda le lundi 16 mai, les pays africains à résister aux pressions exercées par les étrangers concernant l'abandon immédiat des combustibles fossiles. Le chef d'État a expliqué sa position par le fait que non seulement cela nuirait aux économies, mais il ajoute aussi que les nations occidentales sont responsables de la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. Chaque pays a le droit de bénéficier de ses ressources naturelles, d'autant plus que plusieurs nations du continent dépendent du développement et de l'exploitation des dix ressources pour améliorer les conditions de vie de leur population, a-t-il indiqué. La Côte d'Ivoire a replanté 38 millions d'arbres pour la reconstruction de son couvert forestier. La Côte d'Ivoire a replanté dans le cadre d'un vaste programme de reforestation de son couvert forestier 38 millions d'arbres en moins de 3 ans, a indiqué mercredi le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. C'était à l'occasion d'une opération de plantation d'arbres à Abidjan-Cocody, initiée par le gouvernement ivoirien en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement dénommé la forêt de la COP15, qui se tient dans le cadre de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Au cours de la décennie à venir, l'objectif est de recouvrir 20% du couvert forestier, a souligné Patrick Hachi. La couverture forestière du pays est passée de 12 millions d'hectares en 1960 à moins de 2 millions d'hectares aujourd'hui. Le Niger et le Bénin préparent des accords pour la réhabilitation d'infrastructures routières reliant les deux pays. Le Niger et le Bénin ont entamé un programme afin de renforcer leurs infrastructures routières communes, gage d'une bonne coopération. Le Niger et le Bénin se préparent pour la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières reliant les deux pays. Ce projet a pour but de promouvoir l'intégration régionale, l'accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu'une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. Ce programme vise à renforcer l'intégration régionale en connectant les pays par le canal d'infrastructures essentielles telles que l'électricité et les routes. L'objectif est de permettre à l'économie de croître plus rapidement et créer plus d'emplois et attirer plus d'investissements. Au Mali, les autorités restreignent encore le champ d'action de la MINUSMA. La mission de l'ONU au Mali MINUSMA est empêchée par l'armée d'accéder à la ville de Djéné alors que les casques bleus prévoyaient de s'y rendre en début de semaine. Les forces de la MINUSMA souhaitaient patrouiller à Djéné dans la région de Mopti en début de semaine, mais dimanche 15 mai, l'état-major général des armées du Mali a catégoriquement interdit à la MINUSMA de s'y déployer. Bamako ne veut plus des forces onusiennes sur son sol. Après avoir restreint les activités de la MINUSMA, les autorités maliennes viennent de donner le signal de ce qu'elles souhaitent véritablement le départ de la mission de l'ONU.